Vous êtes sur RTL.
Faire.
RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Vincent Parisot.
On refait la planète, comme tous les dimanches soirs sur RTL. Et ce soir, on refait la planète avec Marie Toussaint, députée européenne Europe Écologie des Verts, mais également cofondatrice de l'association Notre Affaire à Tous. Bonsoir Marie Toussaint.
Bonsoir.
Merci d'être sur RTL. Notre Affaire à Tous, c'est une ONG qui se sert du droit, de la loi, de la justice comme levier pour lutter contre le changement climatique. Et cette semaine a été marquée par deux événements. Tout d'abord, le jour du dérèglement, c'était avant-hier, jeudi, on en parlera. Mais surtout par la présentation d'une étude et d'un classement que vous avez publié sur les 25 sociétés les plus émettrices du CAC 40. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat global n'est pas glorieux pour ces entreprises.
Et non, vous l'avez dit, on a étudié 25 multinationales françaises. Alors, elles ne sont pas toutes membres du CAC 40, même si la majeure partie d'entre elles. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'aucune d'entre elles ne respecte la loi et notamment les obligations de vigilance climatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a des lois, à la fois une obligation d'action pour prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Mais on a aussi une loi qui a été adoptée en 2017 qui établit un certain nombre de procédures, de mesures à suivre pour les entreprises, pour qu'elles puissent analyser, mesurer, rendre transparent et réduire leurs atteintes à l'environnement et aux droits humains. Et sur le climat, on est complètement à côté de la plaque.
C'est d'ailleurs une loi, cette loi française de 2017, elle est unique au monde. Pour l'instant, personne, n'y a pas d'équivalent ailleurs.
Elle est unique en son genre, oui. On a des obligations assez proches, assez similaires aux Pays-Bas ou encore en Italie. Et au niveau européen, on a aussi des directives qui demandent à ce qu'il y ait une transparence sur un certain nombre d'outils non financiers de la part des entreprises. Et à chaque fois, c'est la même chose, les entreprises ne respectent pas leurs obligations.
Alors, aucune de ces 25 entreprises, même la mieux notée, n'est dans les clous aujourd'hui.
C'est ça. Alors, on a établi des critères sur 100%, mais 100%, ouais, ça veut dire le respect de la loi. Donc, quand aucune entreprise n'est à 100%, on voit bien que personne ne la respecte. Alors, ceci étant dit, une entreprise comme Schneider Electric, qui est la première du classement, fait des choses. En tout cas, elle assume le fait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il est créé par l'être humain, et qu'elle a une part, cette entreprise, de responsabilité et qu'il faut mettre des mesures en œuvre pour y répondre. C'est pas le cas des entreprises en bas du classement. Air Liquide, qui arrive bon dernier. Oui. Puis Total, évidemment, qu'on a déjà assigné en justice pour inaction climatique le mois dernier. Et puis Natixis. Il y a des questions à la fois de transparence et de reporting de leurs activités. Il y a aussi des mauvais esprits, des manières de prétendre qu'on agit alors qu'on ne le fait pas. Et donc on sait que les entreprises sont assez douées aussi dans le greenwashing.
Ah oui, parce que par exemple vous avez fait référence à Air Liquide qui arrive vraiment en bas du classement.
Tout en bas.
Et Air Liquide vous a répondu sur le thème non, c'est pas vrai, on fait beaucoup.
Oui, ils nous ont, enfin, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais vous n'avez pas regardé nos bons documents de référence. Alors, on attend qu'ils nous envoient leurs documents de référence de cette année. En tout cas, nous, tout ce à quoi on a pu avoir accès montre qu'effectivement, ils sont tout en bas du classement.
Utiliser tous les leviers juridiques pour obliger les États, parce qu'on peut aussi en parler, on va en parler, ou les entreprises à bouger comme le fait votre association. Est-ce que c'est l'illustration de la fin d'une époque, c'est-à-dire la fin de l'incitation, la fin de la proposition, la fin des bonnes intentions affichées? Je dis ça parce que vous l'avez déjà montré avec Total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous les mettez face à leurs responsabilités juridiques, ces entreprises.
Oui, l'étude qu'on a sortie, c'est une manière de leur dire, voilà quelle est la loi, parce que manifestement, toutes ne la connaissent pas.
Vraiment, vous pensez qu'ils ne la connaissent pas, la loi?
En tout cas, il y en a un certain nombre qui sont contre-fiches, oui. Ça, c'est une évidence. Bon, donc on leur rappelle la loi, on leur rappelle leurs obligations, et effectivement, ça peut être une première étape avant une potentielle action en justice.
Mais ça veut dire, ça sonne un peu comme dernier avertissement. C'est un petit peu ça, avant suite judiciaire.
C'est un premier avertissement, voilà. Mais effectivement, la justice est un outil qui peut être puissant. Et on le voit à travers le monde, il y a de plus en plus d'actions en justice climatique qui sont menées et qui permettent d'obtenir des choses. Quand on se rappelle, par exemple, la semaine dernière, l'interdiction de l'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow en Grande-Bretagne, justement parce qu'il ne tenait pas compte du réchauffement climatique et qu'on sait que prendre l'avion, évidemment, ça émet plus. Et donc ça va dans la direction inverse de celle dont on a besoin. Mais on a aussi des interdictions, par exemple d'une immense mine de charbon à ciel ouvert au Brésil par la justice, ou encore la condamnation des Pays-Bas pour objectifs climatiques trop peu élevés depuis 2015, entre 2015 et 2019. La justice est un véritable outil aux mains des citoyennes et des citoyens, notamment lorsque l'État ne remplit pas son rôle. Ne remplit pas son rôle pour agir en tant que tel, et la France est extrêmement en retard, c'est ce qu'on a souligné avec l'affaire du siècle, mais ne remplit pas son rôle non plus dans la régulation de ces multinationales. Et je vous parlais tout à l'heure de ces lois qui existent, mais surtout, il y a des citoyennes, des citoyens, des experts qui font ces analyses des trajectoires des entreprises. Et en fait, à chaque fois, on voit que voilà, les entreprises n'agissent pas assez. Et normalement, c'est bien le rôle de l'État que d'encadrer ces entreprises et de leur demander de nous protéger. Donc c'est ça qu'on rappelle avec notre affaire à tous.
Vous leur accordez un délai, ces entreprises, avant d'engager des procédures judiciaires, comme vous avez pu le faire dans le passé, par exemple avec Total?
Alors, ce n'est pas nous qui leur accordons. Il y a la loi pose aussi un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut qu'on les interpelle sur les manques. Puis, les entreprises peuvent y répondre, ajuster leur plan, ajuster leur stratégie. Et d'ailleurs, ce à quoi on aspire en réalité, c'est qu'elles changent leur stratégie et qu'elles se mettent sur une trajectoire qui est celle de l'accord de Paris. C'est possible. Elles ont les moyens, les ressources humaines et financières pour le faire. Et donc, on attend ça. Puis après, on verra.
Comment on peut comparer des entreprises aussi, j'allais dire, diverses sur le plan écologique? Je pense, par exemple, à BNP Paribas d'un côté, ou Total ou Air Liquide de l'autre, où on voit bien, où on comprend bien effectivement l'impact écologique qu'ont certaines, beaucoup plus important par rapport à d'autres.
Oui, mais toutes ont des obligations. Ouais. C'est-à-dire que, qu'on émette un peu ou beaucoup, on doit être dans une trajectoire de réduction des émissions. Alors juste un chiffre quand même frappant, ces entreprises, elles ne révèlent pas l'ensemble de leurs émissions, ce qu'on appelle le scope 3 dans le jargon, toutes les émissions dont elles sont responsables. Mais selon les estimations des ONG, des experts, des cabinets d'études, et pas seulement selon leur dire, eh bien ces 25 entreprises seraient responsables de 8 fois plus d'émissions que la France. Donc c'est énorme. Et quand on les prend, ce sont des grandes entreprises, donc elles ont un réel impact, toutes, même celles qui ont le plus petit impact apparent. Et voilà, si elles n'agissent pas, elles, l'action individuelle ne peut pas suffire. On a besoin que ces méga-pollueurs agissent eux aussi.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une forme de radicalisation du combat écologique? Je veux dire, quand on attaque sur le terrain de la justice des géants du CAC 40, qui ont les moyens de se défendre aussi, hein, qui ont des cabinets d'avocats, est-ce que là, on est engagé dans un véritable bras de fer?
C'est un véritable bras de fer, comme vous venez de le dire. Alors, en France, on est encore un petit peu protégé, mais je rappelle par exemple que l'avocat des victimes de Chevron en Équateur, Chevron a déversé des millions de litres de pétrole dans la forêt équatorienne, il y a des dizaines de milliers de victimes, et bien l'avocat de ces victimes est assigné à résidence aux États-Unis pour des raisons absolument floues, absolument pas claires. Et donc effectivement, s'engager dans ces dynamiques-là, c'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose de sérieux auquel on réfléchit à plusieurs reprises. Mais encore une fois, si l'État, si les services de police, si les procureurs ne se saisissent pas de ces questions-là et n'essayent pas de protéger les citoyennes et les citoyens du réchauffement climatique, alors c'est bien à nous de le faire. Et donc oui, on s'empare de cette question-là. Et dans l'histoire, l'utilisation de la justice, elle a permis de grandes avancées. Et je pense par exemple à l'état de nécessité qui a été reconnu par la justice en 1898 et qui a autorisé quelque part une femme à voler une pomme pour nourrir son enfant qui était en train de mourir de faim. Et on a pu voir en ces dernières années, là, notamment en 2012, que c'est la justice qui a reconnu le préjudice écologique et qui a dit qu'on n'avait pas le droit de porter atteinte à la nature.
Marie Toussaint, on connaissait déjà le jour du dépassement, vous savez, c'est cette date à laquelle l'humanité a épuisé les ressources que la planète peut renouveler chaque année. Alors vous, votre ONG, votre association, notre affaire à tous, vous venez d'ajouter un autre indicateur de la crise écologique, c'est le jour du dérèglement. Ce jour, c'était avant-hier, jeudi dernier. C'est quoi le jour du dérèglement?
Alors les associations qui portent l'affaire du siècle, notre affaire à tous, Monsieur Oxfam, la FNH et Greenpeace, ont lancé ce jour du dérèglement. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un budget carbone, ça c'est le GIEC qui le dit, d'ailleurs Greta Thunberg le rappelle régulièrement, un budget carbone à ne pas dépasser si on veut respecter l'accord de Paris. Alors là, le budget carbone qui a été calculé, c'est celui de la loi française, des objectifs français, et effectivement on a vidé le budget carbone pour l'année, le 5 mars dernier.
Mais donc c'est un budget carbone à quelle échéance? Prévu à quelle échéance?
Pour la neutralité en 2050.
Donc on a le temps encore quand même de... j'allais dire, de gagner.
De continuer à polluer.
Ah non, c'était non, pas la pas question, on a le temps de faire mieux.
On n'a pas le temps, il faut agir. D'ailleurs, si on veut vraiment réduire nos émissions, c'est maintenant qu'il faut agir et pas après 2030, comme nous propose M. Macron ou la Commission européenne. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'essayent de faire les associations, c'est de dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus de carbone à dépenser. Et si on veut respecter le climat, c'est à ça qu'on doit arriver. Et donc, on espère que ce sera repoussé de plus en plus et de plus en plus vite pour arriver au 31 décembre.
Donc, on est en retard. Est-ce que ce retard, vous pensez finalement l'utiliser pour alimenter votre recours en justice contre l'État français, ce recours en justice pour inaction climatique ?
L'affaire du siècle ?
Oui.
Écoutez, nous, on continue d'apporter des pierres au moulin du juge qui va traiter de ce sujet. Voilà, ce sera à lui de dire si la France est en retard en tant que telle, parce que les lois françaises ne permettent pas de respecter l'accord de Paris. Donc, il y a cette question-là. Et puis, la deuxième, c'est que les lois existantes ne sont pas respectées. Donc, le juge devra dire si, effectivement, on est dans une situation de respect de la loi ou d'irrespect de la loi, et demander à l'État d'agir plus, d'agir mieux. On sait que l'État peut le faire. Il y a des carences énormes, que ce soit dans l'investissement sur le ferroviaire, dans l'investissement sur la rénovation du bâtiment. On voit bien qu'il y a plein de choses à faire qui sont possibles. Et donc, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est effectivement que l'État agisse enfin.
Merci beaucoup, Marie Toussaint, d'avoir refait la planète ce soir sur RTL. Merci. Et dans un instant, sur RTL, ce sera Autoradio avec Christophe Bourreau, comme chaque dimanche soir. On va parler ce soir des occasions et essayer d'éviter les pièges.
On refait la planète sur RTL.